Chapitre 9. Escale à Java. L'Ankou continua de voguer sur une mer d'huile durant plusieurs jours. Ils arrivèrent en vue de l'île de Java. Ils suivirent la côte un moment, avant d'arriver à portée d'une ville, visiblement active, où des bateaux de diverses origines asiatiques et européennes se trouvaient au mouillage. Gaël Morbrez avait fait retirer le pavillon noir avant d'être en vue.
« Quelle est cette country ?»
demanda Dennis.
« C'est la ville de Jayakarta, » répondit Gaël. « Enfin, c'était ainsi qu'elle s'appelait, avant de devenir une colonie hollandaise. Elle a été rebaptisée Batavia il y a une vingtaine d'années. Avec Singapour, c'est un des centres commerciaux les plus actifs de cette région du monde. Et bien sûr, les pirates y sont présents. »
« Les Hollandais laissent faire les pirates ?»
Du moment que nous n'attaquons pas les navires hollandais et que nous empêchons les Anglais et les autres de se déplacer en toute quiétude sur l'océan Indien. Mais nous devons éviter de nous afficher.
Que venons-nous faire ici? Une escale pour se ravitailler?
Il y a de ça, mais pas seulement. J'ai une affaire à régler ici avant de continuer vers l'est. John, je te laisse commander la manœuvre.
Une fois le navire à quai, Gaël réunit ceux qui devaient, ou souhaitaient, descendre à terre. La grande majorité de l'équipage resterait à bord sous les ordres de John. Gaël serait accompagné d'Akiko et Dennis, qui souhaitaient découvrir cette ville. Un second groupe serait commandé par Natalia et se composait de Morgan, quelques autres pirates pour servir de manutentionnaires, et de Caitlin.
Il lui faut des vêtements plus adaptés à la vie à bord,
invoqua Natalia pour justifier la présence de la jeune femme.
Morgan lui prête des vêtements, mais il lui faudrait sa propre garde-robe.
C'est vrai que la robe d'aristocrate anglaise n'est pas ce qu'il y a de plus pratique,
acquiesça Gaël.
Moi j'aime bien sa robe, fit remarquer John.
Je la garderai pour les occasions,
sourit Caitlin.
Ah, l'amour, rit Morgan. Vivement que je connaisse ça. On y va ?
Gaël regarda le petit groupe s'éloigner, visant plus particulièrement sa nièce. Un sourire malicieux naquit sur ses lèvres.
Pourquoi Morgan a dit ça ?
Fit Dennis.
Parce qu'elle croit que personne n'a remarqué le petit manège qu'elle fait avec Igor, dit Gaël. D'ailleurs, seuls quelques-uns ont remarqué et gardent le silence. Ils pensent peut-être que nous n'accepterons pas leur relation.
Je trouve ça ridicule, dit Akiko. Tout le monde apprécie Igor et Morgan à bord, et tous seraient heureux d'apprendre leur histoire d'amour.
Elle ne pourra pas rester éternellement cachée. Allons-y, nous aussi. Dennis, soyez sur vos gardes et restez près de nous. Nous nous rendons dans un des lieux les plus dangereux de cette ville.
Bien compris, assura l'Anglais.
Les rues de Jayakarta étaient les plus animées. Les marchands haranguaient les passants pour qu'ils viennent acheter leurs marchandises. Il était inutile de parler leur langue pour le comprendre. En remarquant qu'ils étaient européens, certains marchands se mirent à les inviter à s'arrêter en hollandais ou en anglais, ce qui surprit plus Dennis.
Vous ne saviez pas que les Anglais ont dominé cette ville un moment ?
Fit Gaël.
À vrai dire, « je ne sais pas grand-chose de ce monde, » avoua Dennis. « Je me suis surtout occupé de l'éducation de Caitlin et de nos terres depuis le départ de notre père. Mais j'aimerais rattraper mon retard. J'ai l'impression d'être ignorant. »
« Ce qu'il y a de bien quand on est conscient de son ignorance, c'est qu'on est aussi conscient du plaisir qu'on aura à tout découvrir. Le monde s'ouvre à vous. Appréciez-le sans préjugés pour en goûter toutes les saveurs. »
C'est un conseil que je m'engage à suivre, Captain.
Le paysage urbain changea progressivement. Les rues animées furent remplacées par des lieux bien moins fréquentés. Les vendeurs se faisaient bien moins expressifs et regardèrent passer les Occidentaux avec suspicion devant des échoppes moins colorées. La lumière elle-même semblait se faire plus timide à cet endroit. Dennis dut prendre sur lui pour ne pas porter la main à son épée. Il commençait à se demander où le capitaine les emmenait. Il jeta une œillade à Akiko.
La japonaise restait fidèle à elle-même, totalement neutre et calme. Ils s'arrêtèrent à quelques pas d'une porte gardée par deux hommes en armes. Gaël se tourna de nouveau vers Denis pour lui répéter ses consignes. L'anglais acquiesça. Il comprit que le danger était plus grand maintenant. Gaël, suivi des deux autres, s'approcha des gardes. Ils échangèrent quelques mots dans la langue locale. Les gardes toisèrent les trois étrangers d'un air mauvais. Denis pensait qu'ils allaient les éconduire, mais un des gardes frappa à la porte. Une lucarne s'ouvrit, et après un nouvel échange de paroles entre le garde et le portier, la porte s'ouvrit. L'intérieur ne ressemblait pas du tout à la rue crasseuse qu'ils venaient de quitter. Les murs étaient décorés de couleurs chatoyantes, de dorures et de rideaux. Denis remarqua que ces rideaux dissimulaient des portes ouvragées. En passant devant certaines au moment où elles s'ouvraient, il vit des hommes en train de fumer dans de longues pipes, allongés sur des divans, occupés à jouer à un jeu avec des petites tuiles blanches ou accompagnés de demoiselles plus ou moins dénudées dans des étreintes torrides. Denis n'avait jamais mis les pieds dans un tel lieu. Il savait que cela existait, même à Londres ou dans certaines grandes villes anglaises, mais sa morale le répugnait à s'y rendre. Il se demandait ce que le capitaine pouvait avoir à faire dans un tel endroit. Ils furent menés jusqu'à une pièce où se trouvait un magnifique bureau. Plusieurs personnes s'y trouvaient, dont des jeunes femmes en tenue légère, mais ce fut visiblement l'homme qui se trouvait derrière le bureau qui intéressait le capitaine de l'Ankou. Denis fut surpris de constater qu'il était assez petit, mais un certain charisme effrayant émanait de lui. Son crâne était quasiment dénué de cheveux, hormis une longue natte tressée, retombant sur son épaule. L'homme leva vers Gaël un regard hautain, malgré son sourire.
« Gaël Morbraise, dit l'Asiatique, « quelle surprise de te revoir aussi tôt. Je ne t'attendais pas avant des années. »«
Tu sais, Jawanial, je vais, je viens. » répliqua Gaël.
« Et puis-je savoir ce qui t'amène ici ?»«
Ne fais pas l'innocent, tu le sais très bien. »«
Ah, tu es venu pour ça. Je me demandais qui de toi ou de ta sœur viendrait. Dois-je en conclure qu'elle n'est plus capitaine de l'Ankou ?»«
Tu dois en conclure que tu dois nous rendre ce que nous t'avons prêté si gracieusement durant ces dernières décennies. »
« Il ne vous a pas manqué durant presque 30 ans. J'en étais arrivé à la conclusion que cet objet était inutile pour vous. »«
Tu te trompais. Assez parlé. Je ne tiens pas à rester dans cette ville plus longtemps que nécessaire. Rends-le-moi immédiatement. »
Jawanial ne semblait pas désireux de restituer au capitaine Morbraise ce qu'il lui demandait. Un tic nerveux trahissait son envie de dégainer son arme. Denis fit une rapide évaluation des forces en présence. Il n'était venu qu'à 3, et même si le capitaine se trouvait être un sorcier et Akiko une dragonnière, lui-même n'était qu'un simple moldu, comme il disait. Et autour d'eux se tenait une dizaine d'hommes en armes. Denis avait bien compris que, dans le milieu de la piraterie, il ne fallait pas considérer les femmes comme des potiches. Même si leur corps d'albâtre et le peu de tissu qu'elles portaient ne semblaient pas dissimuler de l'âme. Jawanial avait l'avantage du nombre et du lieu. Mais contre toute attente de la part de Denis, il se leva sans intention violente. Il ne fit que porter ses mains à son col pour en sortir un pendentif composé d'une chaînette fine et d'un éclat de cristal brut de couleur vert pâle. Denis remarqua que ce morceau de cristal ressemblait au bloc qui se trouvait dans l'Ankou et dont personne n'avait daigné lui expliquer l'origine et la raison. Encore un des secrets de ce navire, ô combien étrange. Jawanial admira le morceau de cristal. On sentait bien qu'il ne souhaitait pas s'en séparer. À contre-cœur, il le tendit à Gaël, qui s'en saisit sans hésitation et le passa autour de son cou, le cachant sous ses vêtements. Puis, sans que le moindre mot ne soit ajouté entre les deux hommes, Gaël Morbrez tourna les talons et sortit, emmenant Dennis et Akiko à sa suite. Ils refirent le chemin en sens inverse dans l'établissement pour retourner dans la rue. Dennis ressentit comme une certaine tension dans l'air. Un coup d'œil à Akiko lui confirma que la femme aux yeux en amande scrutait le moindre recoin. Dennis se mit à faire de même quand soudain, des portes derrière lesquelles se trouvaient précédemment des clients fumeurs d'opium, joueurs de mahjong ou consommateurs sexuels, surgirent des brigands, armes au clair. Dennis porta la main à son épée, mais stoppa son geste en voyant que le capitaine et son épouse demeuraient parfaitement calmes et n'avaient pas esquissé le moindre mouvement pour le moment.
« Je suis sûr que tu ne t'y attendais pas, à celle-là, »
lança Jawanyal.
« À vrai dire, c'est que tu ne tentes rien pour le conserver qui m'aurait surpris, »
répliqua Gaël.
« Tu es si prévisible. »
À ces mots, Jawanyal vira rouge fureur. Il ne semblait pas habitué à ce qu'on lui parle sur ce ton.
« Tu vas me rendre ce pendentif, »
ordonna Jawanyal. « Depuis le temps, il est à moi maintenant. »
« Il n'a jamais été à toi, » dit Gaël. Tu as aidé l'encou une fois, et c'est pour te récompenser que ma sœur t'a prêté ce pendentif. Mais depuis le début, tu savais très bien que ce ne serait que temporaire.
Ce pendentif est à moi.
Tu es donc prête à mourir pour lui?
Exactement.
Jawanyal lança un ordre, et les hommes armés se lancèrent à l'assaut. Dennis tira son épée pour parer un premier coup de sabre. À côté de lui, il vit l'éclair d'acier de la lame du katana d'Akiko fuser, pour trancher sans même chercher à bloquer. Le poitrail ouvert, l'adversaire de la japonaise s'effondra en lâchant un borborygme incompréhensible. Dennis repoussa son agresseur d'un coup de pied à l'abdomen et se fendit pour venir le piquer en pleine poitrine. Gaël fit surgir son sabre d'abordage dans sa main droite et sa baguette dans sa main gauche. Il para un coup de sabre et enchaîna directement avec une coupe qui trancha net le bras de son attaquant. Ce dernier se mit à hurler, mais se tut en recevant un second coup de sabre dans la gorge. Un autre vint par l'autre côté, le sabre haut. Il l'abattit sur le capitaine de l'encou, mais fut arrêté par la baguette, devenue aussi dure que l'acier. Gaël maltraita la rate de son ennemi d'un puissant coup de pied et l'envoya ad patres d'un coup de sabre. Gaël ne vit pas l'ennemi qui vint silencieusement dans son dos. Mais heureusement pour lui, Dennis le désarma d'une passe d'armes sans égale avant de lui ouvrir la gorge de la pointe de son épée. Gaël échangea un regard reconnaissant avec l'anglais avant de repartir au combat. Akiko tranchait les ennemis de manière simple et rapide, dans le plus pur style samouraï. Elle fut tout de même prise de vitesse par une des femmes combattantes. Cette dernière parvint même à faire tomber la japonaise en arrière. L'indonésienne donna un coup de pied dans le poignet d'Akiko pour la désarmer et la menaçait de son épée. Elle allait la mettre à mort, quand soudain, les yeux de la japonaise prirent une teinte dorée. Akiko ouvrit grand la bouche, comme pour hurler, mais ce fut un souffle enflammé qui en surgit. L'assaillante hurla de douleur en reculant et en s'agitant, le corps brûlant. Akiko tendit la main vers son katana qui vola jusqu'à elle. Elle mit fin à la souffrance de l'Indonésienne en la décapitant. Gaël éventra un adversaire, faisant ressurgir la lame de son sabre dans son dos. Il pointa sa baguette vers celui qui s'élançait sur lui.
« Avada Kedavra !»
Un éclair vert frappa l'ennemi en pleine course et il s'étala au pied du capitaine pirate. Gaël laissa choir l'homme de main épinglé sur son sabre. Il ne restait plus que Jawanyal qui grimaçait au spectacle de ses hommes, gisant à même le sol, dans leur propre sang. Gaël fit quelques pas vers lui, son sabre perlant du sang de ses victimes.
« Ne tente plus rien, » dit Gaël. « Si je te revois, je te tue. »
Gaël rejoignit ses deux acolytes et sortit. Akiko attendit d'être dans la rue pour nettoyer le sang de sa lame et rengainer. Elle tendit le chiffon ensanglanté à Dennis pour qu'il fasse de même avec son épée.
« Vous aviez prévu ça ?» demanda-t-il au capitaine.
« En fait, j'espérais que la peur l'empêcherait d'agir, » avoua le capitaine. « J'ai sous-estimé l'attrait de Jawanial pour cet objet. »«
Quelle valeur a ce pendentif pour que vous preniez de tels risques pour lui ?»«
Il va bientôt nous servir, oui, bientôt. »
Le capitaine n'ajouta rien de plus. Dennis ne posa pas plus de questions, encore un secret de l'Ankou et des Morbraises. L'Anglais comprenait de mieux en mieux l'attrait de Ship Hunt pour ce navire. Même en ignorant la teneur de ce secret, on pouvait aisément imaginer qu'il devait être extraordinaire. Surtout en voyant les capacités de l'Ankou.
« J'espère que la balade a été plus calme pour les autres, » dit Dennis en remontant sur l'Ankou.
« Il n'allait pas du tout dans les mêmes quartiers que nous, » rassura Gaël. « Et puis, ils étaient plus nombreux. Je suis sûr que Caitlin va bien. »
« Elle avait l'air de bien s'amuser quand je les ai quittés, »
lança Justin Lefranc.
« Tu n'es pas resté avec eux ?» questionna Gaël.
« Tu sais, moi, les boutiques de vêtements, j'ai acheté ce dont j'avais besoin, et quand j'ai compris que les filles allaient en avoir pour un moment, je suis revenu. Par sécurité, Helmut et deux hommes sont allés les rejoindre. Tu as récupéré le pendentif ?»«
Oui, ça n'a pas été aussi tranquille que je l'avais espéré. » « Mais nous l'avons. »«
Dennis, venez me voir, »
ordonna le médecin du bord.
« Pourquoi ?» questionna l'Anglais.
« À cause du sang qui coule le long de votre bras gauche. »
Dennis regarda sa main et, effectivement, des gouttes de sang perlaient au bout de ses doigts. La manche de sa tunique était maculée d'écarlate. Le médecin releva la manche pour constater la présence d'une entaille sur l'avant-bras.
« Je ne l'ai même pas remarqué, » dit Dennis.
« L'explication du combat, »
expliqua Justin, « c'est courant. »«
Maintenant, je ressens la douleur, » grimaça-t-il.
« La tension a baissé, c'est pour ça. C'est une blessure sans gravité, juste une cicatrice de plus. »
Le médecin sortit sa baguette et incanta au-dessus de la blessure. L'entaille se referma. En quelques secondes.
Vous allez vous sentir légèrement affaibli. C'est normal avec le sang que vous avez perdu, prévint le médecin.
Merci, docteur,
remercia Dennis. Voilà les acheteuses, lança John depuis la passerelle. Effectivement, les trois femmes arrivaient en tête, suivies de plusieurs hommes chargés de sacs et colis divers. Gaël sourit à ce spectacle.
Tu as tout de même pensé aux victuailles, j'espère.
Lança-t-il à sa vieille amie.
« Très drôle, » rit Natalia. « Il n'y a que les paquets que tiennent Morgan et Caitlin qui contiennent ces vêtements. Le reste, ce sont les vivres. »
« Ça demande vérification. Qu'est-ce que t'en penses, John ?»« John ?»
Le jeune homme était en admiration devant Caitlin. Cette dernière portait un pantalon de cuir cintré qui soulignait sa silhouette. Elle avait conservé sa natte épaisse, mais avait rajouté un foulard vert à sa coiffure.
« Je crois qu'il ne t'écoute pas, » ironisa Natalia.
« Toujours pareil avec les amoureux, » soupira Gaël. « Je crois que je vais devoir assurer moi-même la manœuvre de départ. On a tout ce qu'il faut. »«
Oui, je vais aller tout ranger d'ailleurs. Morgan, on y va. »
Morgan lança un regard légèrement jaloux, mais souriant, à son amie Caitlin. La jeune Anglaise et John étaient dans leur petit monde.
Morgan était impatiente de pouvoir se retrouver seule avec son vampire.
Mais pour le moment, elle avait du travail. Note du chapitre. Jayakarta est l'actuelle Jakarta.